Vous écoutez On lit pour vous.
Montréal, ville hôte d'un festival Wagner en 1884. Un texte d'Anne-Marie Boisvert paru le 9 juillet 2026 dans BANQ. En juin 1884 se déroule le plus grand événement musical qui ait jamais eu lieu à Montréal, le festival musical Wagner. Du 26 au 28 juin, la métropole vibre au son de l'orchestre de Theodore Thomas, maestro américain d'origine allemande, qui conclut une tournée de plus de 70 concerts en Amérique du Nord. L'événement est marquant puisque le public québécois découvre alors la musique du compositeur allemand Richard Wagner, décédé l'année précédente. Pour comprendre et revivre la ferveur suscitée par le festival, voici les échos des principaux quotidiens de l'époque, dont La Patrie, The Montreal Herald, The Daily Witness et The Montreal Gazette. L'événement d'une vie. L'excitation entourant le festival musical Wagner gagne la presse montréalaise vers la fin du mois d'avril 1884. Jusqu'à la clôture de l'événement, articles et annonces consacrés à la venue de l'orchestre symphonique sans rival de Theodore Thomas se succèdent quotidiennement, nourrissant l'attention du public pendant près de 2 mois. La renommée de l'ensemble symphonique et de son chef, tout comme celle des solistes invités, retient particulièrement l'attention. Parmi les têtes d'affiche se distinguent 3 chanteurs lyriques de l'Opéra impérial de Vienne. La soprano autrichienne Amalie Materna, le ténor allemand Hermann Winckelmann et la basse autrichienne Emile Scaria. Ayant tous créé des rôles pour Wagner, ils confèrent par leur présence une autorité artistique incontestable au festival. À cet illustre trio se joint également la célèbre soprano suédoise Christina Nilsson. Face à cette distribution exceptionnelle, la presse souligne unanimement l'importance de ce rendez-vous musical. Cette série de concerts offrira au public l'occasion, ellipse, d'écouter de la musique de la plus haute qualité, ellipse, interprétée par des artistes sans égal. The Wagner Festival, The Montreal Gazette, 25 juin 1884, page 3. Le festival doit être considéré comme l'un des événements les plus importants de notre histoire musicale. The Wagner Festival, The Daily Witness, 31 mai 1884, page 7. Ce festival est une occasion unique dans une vie et vous regretterez de la laisser passer. Preparing for the Wagner Festival, The Montreal Herald and Daily Commercial Gazette, 24 juin 1884, page 8. Une musique, un public, une ville. Au-delà de l'excellence des interprètes, la diffusion à grande échelle de la musique de Wagner constitue un jalon dans l'histoire musicale québécoise. En effet, la tournée de l'orchestre Thomas survient alors que l'écoute des œuvres du grand compositeur est rarissime dans un Québec qui ne possède encore aucun orchestre symphonique professionnel. Le tout premier, l'Orchestre symphonique de Québec, ne sera fondé qu'en 1902. De plus, en 1884, l'accès à la musique passe par une expérience purement vivante et éphémère. Le gramophone, qui sera à l'origine de l'industrie commerciale de l'enregistrement sonore, ne sera inventé qu'en 1887. Et la radio n'existe pas encore. À Montréal, nous n'avons pas encore eu le privilège d'entendre beaucoup d'œuvres de Wagner, ce qui tient en grande partie, il faut le dire, à l'absence d'orchestre. Joseph Gould, The Wagner Festival, The Daily Witness, 31 mai 1884, page 7. Voilà 30 ans que Montréal n'a pas connu de formation orchestrale de niveau artistique suffisant pour interpréter les symphonies et autres œuvres des grands maîtres. Ellipse. La venue de Theodore Thomas sera une véritable révélation. Joseph Gould, Guillaume Couture et collaborateurs. The Wagner Concert, The Daily Star, 14 juin 1884, page 6. En plus de présenter des extraits des opéras de Wagner, la programmation du festival propose des compositions de Beethoven, Gluck, Mendelssohn, Weber, Mozart, Berlioz, Saint-Saëns, Gounod et Haydn. Cette apparente dissonance avec la thématique du festival donne à penser que l'ajout de compositeurs plus familiers a possiblement servi de levier pour favoriser l'adhésion d'un public dont le goût pour le modernisme wagnérien n'est pas encore acquis. De fait, la rentabilité de l'ambitieuse tournée de Thomas repose sur la vente de billets. Or, si Montréal se réjouit d'accueillir un tel événement, le défi est de taille. Remplir, pour chacune des 5 représentations, les 4000 places du Victoria Skating Rink, converti en salle de concert pour l'occasion. Heureusement, l'attrait du festival dépasse les frontières de la métropole. C'est du moins ce que suggèrent les communications de l'époque. Des compagnies ferroviaires et maritimes adaptent leurs services pour faciliter les déplacements des mélomanes venus du reste du Québec, de l'Ontario et même des États-Unis. Parallèlement, jusqu'au dernier moment, la presse incite le public à se procurer des billets. L'abonnement de saison est fixé à 10 $, tandis que les billets unitaires se détaillent à 3 $, 2 $ et 1 $. Considérant que le salaire moyen d'un ouvrier était alors de $5.75 pour une semaine de 60 heures de travail, assister à ces concerts était un luxe. Derrière toute cette logistique promotionnelle pointe toutefois une sourde inquiétude, celle de voir la métropole perdre une belle occasion de confirmer sa renommée culturelle. Il incombe à tout un chacun de se manifester et de soutenir sans retenue la venue de Theodore Thomas et cette initiative louable, Ellipse, afin de contribuer à faire de Montréal l'un des grands centres musicaux de ce continent. Joseph Gould, Guillaume Couture et collaborateurs, The Wagner Concert, The Daily Star, 14 juin 1884, page 6. Vous écoutez Montréal, ville hôte d'un festival Wagner en 1884. Un texte d'Anne-Marie Boisvert, paru le 9 juillet 2026 dans BANQ. Un moment de grâce. Après 2 mois de fébrilité, le soir du 26 juin 1884 marque enfin l'ouverture du festival. À 20h15, les portes de l'aréna se referment. Thomas donne le signal. Les premières notes de l'ouverture de Tannhauser résonnent dans le Victoria Skating Rink, suivies par quelques airs du même opéra, puis par des extraits des maîtres chanteurs de Nuremberg et de la Valkyrie. Les journaux du lendemain décrivent une expérience hors du commun. L'immersion dans l'univers de Wagner est une réussite. Dans les colonnes de la patrie, le compositeur Guillaume Couture, déjà sensible à l'esthétique du maître allemand, en décrit les effets. Un autre monde vous attire, vous entraîne, et loin de penser à résister, vous vous abandonnez complètement à ce pouvoir inconnu qui vous transporte dans un monde surnaturel et vous fait éprouver des jouissances qui vous font oublier les misères de cette vie et compensent au centuple les peines et les souffrances de 10 années. Le Montreal Herald relate lui aussi un moment de grâce. Les mots nous manquent pour décrire ce qu'ont ressenti les personnes présentes face à la manière magistrale dont les effets orchestraux ont été interprétés. Ellipse. Chaque mesure était empreinte de poésie et de chaleur, ce qui a dynamisé le vaste public. Ellipse. Les Montréalais n'ont pas eu droit à un tel cadeau musical depuis des années. Pour les concerts subséquents, l'enthousiasme initial se tempère légèrement. La matinée du 27 juin se résume par un constat amer. Salle vide, vide, vide. En revanche, la prestation en soirée attire une foule considérable, un succès attribué à la présence de la cantatrice Christina Nilsson. On voit même des curieux qui se pressent contre les murs extérieurs de l'aréna ou se juchent sur son toit afin de profiter gratuitement de la musique. Enfin, pour les 4e et 5e concerts, les écrits tendent vers un bilan. Les éloges vont principalement à la prima donna Amalie Materna, au maestro Thomas et son orchestre, et à Wagner. Tout est fini. De la solennité musicale donnée par l'orchestre Thomas, il ne reste plus qu'un souvenir d'une suavité ineffable et l'incrustation dans nos cœurs de l'œuvre puissante, colossale, incommensurable de Richard Wagner. Guillaume Couture, 4e et 5e concert de l'orchestre Thomas, La Patrie, 30 juin 1884, page 2. Le bilan. Bien que la tournée de l'orchestre de Thomas soit une réussite sur le plan artistique, le bilan financier de l'escale montréalaise demeure mitigé. Les comptes rendus des concerts signalent à plusieurs reprises que de nombreux sièges sont restés vacants. A posteriori, certains justifient cette situation par la méconnaissance du public quant à l'œuvre de Wagner. Cette interprétation est corroborée par la série de 10 articles que signe Guillaume Couture dans La Patrie entre le 23 juillet et le 4 août 1884. Ces textes visent à éduquer l'auditoire en lui exposant les aspects novateurs de l'œuvre de Wagner et en déconstruisant les préjugés dont elle fait encore l'objet. Mais ce sont par-dessus tout des circonstances défavorables qui expliquent la faible affluence. En effet, la métropole était au même moment le théâtre d'une autre fête d'envergure, le 50e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste. Si c'est trop de deux malheurs, je crois que c'est trop de deux bonheurs. Ellipse. La présence de l'orchestre Thomas aura été perdue pour l'élément français, cette situation nous privant d'entendre des chefs-d'œuvre inconnus ici. Ellipse. Elle est surtout regrettable en ce que ce fiasco financier va détourner à jamais l'orchestre Thomas de Montréal. Guillaume Couture. 4e et 5e concert de l'orchestre Thomas. La Patrie, 28 juin 1884, page 2. D'abord acclamé comme un événement historique, le festival musical Wagner se conclut donc sur une note de déception et sombrera dans l'oubli. Toutefois, grâce à l'engagement de musiciens enthousiastes, comme le compositeur Guillaume Couture, et aux visites ultérieures d'ensembles symphoniques étrangers, le public québécois continuera de se familiariser avec l'œuvre du compositeur allemand. Rétrospectivement, l'évolution du paysage musical montréalais prête à sourire. En 1948, la Société des concerts symphoniques de Montréal, aujourd'hui l'Orchestre symphonique de Montréal, créée en 1939, présentera avec succès son propre festival Wagner. C'était Montréal, ville hôte d'un festival Wagner en 1884. Un texte d'Anne-Marie Boisvert paru le 9 juillet 2026 dans BANQ.
Le bégaiement, et si les gènes étaient partiellement responsables, un texte de la rédaction, paru le 15 août 2025 dans Québec Science. Le bégaiement, cette difficulté à parler de façon fluide, est bien mystérieux. Une grande étude génétique révèle que le bégaiement pourrait avoir une composante génétique, au moins partiellement. Pourquoi ces hésitations, ces répétitions de syllabes, ces difficultés? Le stress? Les muscles buccaux paresseux? Autre chose? Une étude génétique d'envergure, publiée à la fin juillet 2025, apporte des réponses très concrètes. Des scientifiques ont analysé l'ADN de plus d'un million de personnes, dont près de 100 000 qui avait déclaré « Oui, j'ai déjà bégayé ». Résultat, 57 zones précises du génome, appelées loci, ont été repérées comme étant liées au bégaiement. Ces régions concernent au moins 48 gènes différents. Cela signifie que le bégaiement n'est clairement pas causé par un seul gène du bégaiement. C'est un phénomène complexe ou polygénique où de nombreux gènes jouent chacun un petit rôle. En plus, ces gènes sont liés à des fonctions cérébrales essentielles comme la parole, le rythme et même certains traits associés à l'autisme, à l'humeur ou à la coordination musicale, comme la capacité de suivre un rythme. L'intérêt de cette découverte? Ces résultats cassent les mauvaises idées reçues sur le bégaiement, comme le fait que ce serait à cause de trop de stress ou de la façon de parler de quelqu'un, souvent des mythes vieux comme le monde. Au contraire, cette recherche montre que le bégaiement est en partie dans notre ADN, tout comme la couleur de nos yeux ou notre taille. Grâce à cette découverte, on peut imaginer dans un futur pas si lointain des méthodes de dépistage plus précoces, des prises en charge mieux adaptées des enfants à risque dès leur plus jeune âge et surtout une meilleure compréhension de ce trouble, loin des jugements ou du sentiment d'échec. C'était Le bégaiement et si les gènes étaient partiellement responsables, un texte de la rédaction paru le 15 août 2025 dans Québec Science.
Où sont passés nos guerriers? Une chronique de Robert Falcon Ouellette, paru le 17 juillet 2026 dans Radio-Canada, Espace autochtone. Il y a 175 ans, sur les grandes plaines de ce qui est aujourd'hui le Dakota du Nord, des éclaireurs métis aperçurent à l'horizon des centaines de guerriers Dakota. Du 12 au 14 juillet 1851, la bataille de Grand Coteau opposa une petite troupe de chasseurs métis de la Rivière Rouge à une force Dakota beaucoup plus nombreuse. Le camp métis comptait des familles, des enfants, des charrettes et seulement 77 hommes et garçons capables de manier un fusil. Sous la direction de Jean-Baptiste Falcon, ils encerclèrent leurs charrettes, creusèrent des fosses et défendirent leur communauté. Les combats durèrent 2 jours. Les Métis se résistèrent aux assauts, puis accomplirent une manœuvre militaire extrêmement difficile, se déplacer avec les femmes, les enfants et les charrettes, tout en demeurant au contact de l'ennemi. Les marques de leur position sont encore visibles dans la terre. Il ne s'agit pas de célébrer une guerre entre peuples autochtones. Les Dakota défendaient eux aussi leur territoire, leurs ressources et leur avenir. Les deux peuples vivaient dans un monde bouleversé par la disparition progressive du bison, l'expansion coloniale et une concurrence grandissante pour survivre. Mais Grand Coteau nous oblige à réfléchir au courage. Cette semaine, l'Assemblée des Premières Nations a tenu son Assemblée générale annuelle à Ottawa sous le thème « Défendre les droits, renforcer les nations ». Les chefs se réunissent pour discuter d'eau potable, d'infrastructures, de citoyenneté, de services à l'enfance et à la famille, de développement économique et de relations avec le gouvernement fédéral. Nos guerriers ne montent plus à cheval. Ils entrent dans un centre des congrès, prennent un microphone et présentent une résolution. Certains parlent avec force, d'autres avec éloquence. Beaucoup connaissent parfaitement les procédures. Ils remercient les ministres, reconnaissent les fonctionnaires présents et prononcent les mots habituels sur la collaboration, le partenariat et la réconciliation. Mais si nos ancêtres pouvaient nous entendre, que penseraient-ils? Seraient-ils fiers de voir nos dirigeants se parler poliment pendant que des communautés attendent encore de l'eau potable? Comprendraient-ils que les droits des enfants doivent continuellement être renégociés? Accepterait-il que le gouvernement change les règles lorsqu'il n'aime pas l'issue d'une décision judiciaire ou d'une négociation? Dans ma maison, je garde une couverture de bande dessinée des années 1970 représentant la cavalerie américaine attaquant une communauté autochtone. Elle me rend triste, car elle rappelle la violence dirigée contre nos peuples. Elle me rend également fier, car ceux qui étaient attaqués ne se sont pas simplement couchés devant l'injustice. Ils ont défendu leur famille et leur droit d'exister. Dans les grandes batailles, comme celle de Little Bighorn, des Autochtones se trouvaient aussi du côté de l'armée américaine. Des éclaireurs Crow et Arikara accompagnaient la cavalerie pendant que des guerriers Lakota, Cheyenne et Arapahos lui résistaient. Certains avaient leurs propres différends historiques. D'autres pouvaient penser « Je dois nourrir ma famille. Je vais essayer de changer le système de l'intérieur. » Il est trop facile, 150 ans plus tard, de condamner leur choix. Mais une question demeure. Que serait-il arrivé si davantage de nations s'étaient tenues ensemble? Le gouvernement américain aurait-il été forcé de modifier ses politiques? Et aujourd'hui, nos gouvernements profitent-ils encore de nos divisions, de nos ambitions et de notre besoin de conserver une place à leur table? C'est peut-être la leçon la plus difficile pour les dirigeants autochtones d'aujourd'hui. Une personne peut entrer dans le système pour aider son peuple, mais le système peut aussi finir par lui apprendre à défendre ses décisions, à parler son langage et à protéger ses institutions. Je pense notamment aux défis auxquels font face Mandy Gulmasti, Jaime Baptiste, Rebecca Chartrand et Boclé Bélanger. Aujourd'hui, résister ne signifie pas prendre les armes. Cela signifie refuser de confondre patience et soumission. Je regarde certains ministres autochtones défendre les décisions du gouvernement. J'en connais plusieurs. Avant d'entrer en politique, ils défendaient les droits autochtones. Maintenant, ils nous répètent que le changement est un processus et que tout prend du temps. On me disait déjà cela en 2015. On me conseillait de patienter, de respecter le processus et parfois de me taire. Je ne me suis pas tu. Des batailles ont été menées pour les langues autochtones, les services à l'enfance et les injustices liées au statut d'Indien. Des lois importantes ont finalement été adoptées. Elles n'étaient pas parfaites, mais elles n'auraient jamais existé si tout le monde avait attendu poliment son tour. Un guerrier n'est pas celui qui parle le plus fort. C'est celui qui demeure fidèle à son peuple lorsque la pression monte, lorsque le gouvernement résiste et lorsque sa propre carrière risque d'en souffrir. C'est aussi celui qui sait reconnaître le moment où la participation devient complicité, où le compromis devient renoncement et où la patience sert surtout les intérêts de ceux qui détiennent déjà le pouvoir. À Grand Coteau, les Métis ont tenu leur position malgré leur infériorité numérique. À Little Bighorn, la division entre peuples autochtones nous rappelle que servir un gouvernement n'est pas toujours servir la justice. À Ottawa, 175 ans plus tard, la question demeure. Nos dirigeants sont-ils encore des guerriers ou sont-ils devenus les administrateurs patients de notre propre attente? Le clairon sonne encore. Les nouveaux éclaireurs entrent. On promet une solution. 150 ans. Même fin. C'était « Où sont passés nos guerriers? » Une chronique de Robert Falcon Ouellet, parue le 17 juillet 2026 dans Radio-Canada, Espace autochtone.
Des poils durs à cuire. Un texte paru le 8 juillet 2021 dans le magazine Québec Science. Les poils humains sont 50 fois plus mous que l'acier, mais ils peuvent quand même ébrécher le fil du rasoir le plus aiguisé. Pourquoi ? Qu'on rase la barbe du visage ou les poils des aisselles ou de tes jambes, on constate que les lames deviennent rapidement émoussées et qu'il faut les changer après seulement quelques utilisations. Pourtant, les poils humains sont 50 fois plus mous que l'acier dont sont faites les lames. Pourquoi l'acier s'émousse-t-il si vite en tranchant quelque chose d'aussi mou que des poils ? La question intriguait des chercheurs du célèbre Massachusetts Institute of Technology, MIT, de Boston. Jusqu'à présent, l'hypothèse avait toujours été que chaque rasage émoussait la lame de façon assez uniforme jusqu'à ce qu'elle perde son tranchant. Certains pensaient aussi que l'usure était due à l'oxydation du métal. Mais l'étude du MIT révèle que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Au lieu de cela, tes poils peuvent fissurer l'acier inoxydable dans certaines circonstances. En filmant des lames de rasoir en action sous un microscope électronique à balayage, ils ont pu voir que la coupe d'un poil peut générer une micro-fissure sur la lame perpendiculaire à son tranchant. Puis, cette fissure s'élargit et l'acier se détache en minuscules copeaux. Donc, plutôt que de s'user uniformément, une lame de rasoir perd son coupant par le détachement inégal de copeaux ici et là. Mais comment un simple poil peut-il créer la première fissure ? Les chercheurs ont découvert que trois conditions peuvent favoriser l'apparition de fissures. D'abord, si la lame attaque le poil avec un angle plutôt que perpendiculairement, ce qui est généralement le cas. Ensuite, si la composition de l'acier n'est pas homogène et que des zones plus dures et moins dures existent à l'échelle micrométrique, ce qui est toujours le cas des lames de rasoir à cause de leur procédé de fabrication. Les fissures apparaissent toujours à la frontière entre une zone plus courte et une zone moins dure. Troisième condition, le poil doit rencontrer la lame à cet endroit où l'acier est plus mou. Cette découverte devrait permettre d'améliorer le procédé de fabrication des lames pour qu'elles soient plus homogènes et durent plus longtemps. Comme il se jette 2 milliards de lames chaque année juste aux États-Unis, l'impact environnemental d'une telle découverte pourrait être énorme. C'était « Des poils durs à cuire », un texte paru le 8 juillet 2021 dans le magazine « Québec Science ».